Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
À nous de vous livrer des conseils et les recettes qui feront de cette période de la vie un terrain de jeu culinaire, aussi bienfaisant que gourmand. Maintenant que le sujet est enfin sur la table, il est temps de le cuisiner. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Elvira Masson et Jennifer Hart-Smith à l'occasion de la publication de leur ouvrage « Le manuel gourmand de la ménopause » aux éditions du Seuil. C'est parti. Bonsoir Elvira.
Bonsoir.
Bonsoir Jennifer.
Bonsoir.
Bravo pour cette belle sortie.
Merci.
Merci beaucoup Swazik.
C'était en effet une très grande joie que de savoir que ce livre allait exister, parce que bon, on en a parlé déjà ici, on le voit popper dans les magazines, la question de l'âge, par l'âgisme, a été déjà traitée par quelques féministes. Nous avions d'ailleurs reçu Fiona Schmidt pour une rencontre d'anthologie à ce sujet, bien énervée comme il faut. Et ce qui est extrêmement réjouissant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on voit venir d'autres livres autour de ces thématiques-là. Et donc, quand on dit le manuel gourmand de la ménopause, il y a un petit côté coup de poing aussi, parce que c'est rare de voir ce mot écrit, savoir qu'il est encore fort tabou, ce mot de ménopause.
C'était vraiment important pour nous que le mot de ménopause soit nommé et figure sur la couverture du livre. C'était même non négociable.
Ce qui n'était pas gagné. Hein.
C'était pas gagné. Non. On a peut-être tenté un peu de nous inciter à trouver des périphrases, mais qui peuvent se tenir, hein, des bien vieillir par l'assiette. C'est aussi un livre pour bien vieillir par l'assiette. C'est aussi un livre qui est autorisé aux hommes et aux femmes qui ne sont pas encore dans la phase de la préménopause. Mais nous, on en a fait vraiment une affaire de principe, c'est-à-dire que ça ne nous intéressait ni l'une ni l'autre de faire ce livre sans ce mot-là. Parce que tout a commencé par un article qu'on a fait ensemble dans le magazine Marie-Claire, qui était un peu la genèse de ce livre. Dans la presse féminine, enfin en tout cas au magazine Marie-Claire, il n'y a plus d'histoire d'empêcher le temps de passer ou rester jeune à tout prix. C'est heureusement fini depuis bien longtemps. Donc quand on fait un numéro spécial âge, on aborde vraiment les sujets. Donc on avait abordé un sujet en 4 pages, donc c'est court, 4 pages, que tu avais largement contribué à structurer. Et à l'issue de cet article, une éditrice nous a contacté en disant voilà, c'est beaucoup trop court, quoi. C'est vraiment bien, c'est un bon début, mais il y a rien de probant sur le sujet en littérature écrite. Il faudrait en faire un livre. Donc effectivement, à partir du moment où on a empoigné cette mission, il n'était pas question que le mot de ménopause ne figure pas, mais il n'était pas question non plus que le mot de gourmandise ne figure pas. Et le pari, il était là.
Oui.
Ça, c'est une entrée en matière un petit peu longue pour dire c'est oui, la ménopause, on en parle, et on va y mettre de la joie, on va y mettre de la connaissance, du savoir, pas d'injonction, pas de régime, et du plaisir. Ça, c'est l'entrée en matière.
Mais ça donne super envie d'être ménopausée, hein, mais il n'y a pas de souci. Après, ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'en effet, on a l'habitude des titres qui filoutent. C'est-à-dire que parler de l'âge des femmes, c'est quand même encore un endroit de grosse tension. Alors que le mot ménopause rend les hommes fous, c'est sûr. Je vous le disais, et je le disais aussi sur les réseaux, j'ai eu des réactions mais complètement hallucinantes de mecs qui ne comprenaient pas enfin, à quoi ça servait en fait de parler de ça et même quels étaient les liens. Et c'est un peu ça aussi dont on va discuter aujourd'hui, parce que je pense que bon, moi spontanément, qui me l'a dit, c'est évidemment des hommes, mais en vrai peut-être qu'il y a plein de personnes qui se questionnent en fait sur comment l'alimentation peut vraiment avoir un lien et aider en fait pendant ces périodes là moi je vais pas faire comme si je suis pas du tout en préménopause ou ménopausée, mais pour autant en fait c'est comme si le livre, je l'accueillais comme... en fait, c'est même maintenant tout de suite, en fait, qu'il faut mettre tout ça en place. Donc, même si le mot pourrait, d'une certaine manière, quadriller très très fort à qui c'est adressé, en fait, comme tu le disais, Elvira, c'est pour tout le monde. Oui. Puisque l'alimentation un lien avec notre santé. On est bien d'accord, Jennifer?
Oui, parce qu'en fait, c'est marrant parce que quand on réfléchit à certaines périodes de la vie, on est un peu sur une réponse un peu antisymptomatique. Voilà, on a des désagréments, des symptômes qui nous embêtent, donc on a besoin d'une réponse qui soit très rapide, immédiate. Mais ça nous amènera à expliquer un peu quel est le rôle de la naturopathie ou de la diététique ou de la nutrition. C'est toujours de revenir à des outils de connaissance de soi, de mieux se connaître, de mieux appréhender certaines périodes, de mieux même se poser pour y réfléchir. Ce n'est pas régler un problème, c'est vraiment juste nommer les choses et se dire tiens, c'est vrai que je pourrais juste l'envisager. Et l'alimentation, forcément, on est toutes concernées, c'est un merveilleux moyen, et encore plus quand ça passe par le plaisir, de se dire bah si, ça a un impact, mais ça a un impact sur la longueur, en fait. On n'est pas sur une réponse immédiate, mais ça va venir agir sur notre vitalité, ça va venir agir sur notre bien-être, notre santé mentale, tout ça. Donc forcément que ça, c'est important de le dire.
Ouais. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, on a souvent, comme tu le laisses entendre, l'habitude, en fait, dans la médecine moderne, que les choses soient, en effet, un symptôme, une réponse. Donc, c'est on a quelque chose, on va vouloir se soigner. Mais dans beaucoup de médecine ancestrale, en fait, les choses ne sont pas du tout pensées comme ça.
On raisonne en termes de terrain, on raisonne plus en termes d'éducation, de santé. Donc en fait, parler de la ménopause aujourd'hui, même pour des personnes qui ne sont pas concernées, même pour moi, même pour Elvira, au moment où on nous a proposé le sujet, c'était une façon de revenir au corps et de revenir aussi à faire le point sur l'assiette, et pas seulement aussi, comme le disait Elvira, par le prisme du régime. C'est absolument terrible, on a tout été conditionnés par... par la notion de privation, de régime, d'enveloppe charnelle, d'esthétisme. Sauf qu'en fait, et d'ailleurs en naturopathie on le voit, beaucoup de femmes viennent à la naturopathie plus parce qu'il y a un désir, forcément il y a un ralentissement du métabolisme, donc il peut y avoir une prise de poids. Et parfois c'est pas toujours très bien vécu, normal, enfin voilà. Donc on peut avoir des personnes qui viennent à nous par le prisme de la prise de poids, mais nous c'est pas la première chose qui nous intéresse. On va plus s'occuper de la vitalité et donc regarder comment ça se passe au niveau de l'assiette. Et de fait, le poids va suivre. Mais c'est pas l'argument, enfin on entend la demande, mais c'est autre chose qu'on va venir travailler.
Mais c'est vrai que la recherche de vitalité n'est pas du tout au cœur des préoccupations de l'esprit occidental. Non. C'est-à-dire que tu parlais d'autres cultures et on aborde ces autres cultures par le prisme de portraits qui figurent dans le livre. C'était très important pour nous de sortir d'un prisme, franco-centré, occidentalo-centré et d'aller vers d'autres cultures. Par ces interviews de femmes qu'on a faites, qui sont japonaises, chinoises, d'Afrique du Nord, etc., et qui nous racontent un autre récit, une autre manière de concevoir le temps qui passe, une autre manière d'accorder une place à la femme qui vieillit, mais ou à l'humain qui vieillit, à la vieillesse tout court, et un rapport à la mort qui est très différent. Mais tout découle de ça, c'est-à-dire que le rapport, effectivement, à la vitalité, c'est une des matrices d'autres médecines ou d'autres approches thérapeutiques que la nôtre, quoi. Et c'est vrai que ce livre permet aussi d'ouvrir, moi je dis toujours un peu ça, c'est une période, alors effectivement c'est un peu plombant sur le papier d'approcher cet âge-là, c'est un âge un peu de tourmente, quoi, on se dit qu'est-ce qui m'arrive, moi je commence à avoir des symptômes de préménopause, et déjà c'est chouette de pouvoir nommer les choses, de dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas complètement folle. Si j'oublie des affaires partout, si je sème mes trucs, j'ai l'impression d'avoir un brouillard, des sauts d'humeur que j'avais a priori pas trop avant. Enfin, certaines personnes de mon entourage me contrediront, mais... de dire j'ai peut-être une explication rationnelle. Il y a ça d'une part, mais peut-être voir les choses. Et tu m'avais dit ça quand on préparait le livre, mais même avant, quand on avait écrit l'article, tu me disais « Mais ça peut être une formidable période de réinvention et d'ouverture d'esprit et d'ouverture à d'autres cultures. C'est le moment de se dire « Bah tiens, si on regarde un petit peu comment est-ce que l'alimentation est considérée dans la médecine ayurvédique, au Japon, etc. » Et c'est ce qu'on a essayé par bribes de mettre aussi dans le livre.
Moi, ce que j'ai aimé dans votre approche et qui m'a parlé, c'est aussi de se dire comment on peut... grâce à l'alimentation, être au meilleur de nous-mêmes, en fait. Parce que cette question-là de vitalité, elle est quand même fort absente de nos discussions en général. On mange certes pour se nourrir, mais il y a bien souvent en fait des soucis de transmission sur oui. bah, que doit-on manger pour être en bonne santé, comment on construit oui. nos assiettes, et surtout en tant que personne sociabilisée comme femme, oui. on nous apprend à surtout ne pas trop manger, à ne pas suivre nos instincts, notre appétit, oui. etc. Et je suis hyper contente de voir de la littérature sur l'appétit qui arrive aussi, parce que enfin moi j'ai l'impression qu'on nous a vraiment transmis ça, le fait de rester sur notre faim, voilà oui. ce truc-là. Même si je sais que dans les cultures asiatiques, on nous dit toujours de, enfin, il est bon de ne pas manger jusqu'à satiété, d'aller à 80%, c'est ça ?
Oui, et puis il y a aussi une place, forcément, enfin, je sais pas, ce serait intéressant après dans les échanges d'en discuter sur l'aspect où on a une approche très macro, nutriments, lipides, protéines, glucides, compter des calories, mais enfin, quelle charge mentale terrible, quoi, je veux dire, et puis triste en fait finalement. Alors qu'en fait, faire les liens de cause à effet entre parfois ce qu'on pourrait plus nommer des micronutriments qui vont avoir un impact plus sur le système ostéo-articulaire. Par exemple, on sait qu'il peut y avoir des petits ralentissements de la thyroïde qui peut être soutenus par des apports en iode. Nous, on a beaucoup
vive les algues.
Les algues dans le, voilà, dans le livre. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, dans la cuisine chinoise, typiquement, les algues font partie intégrante des... Alors, nous, on appelle ça des super aliments, mais eux, c'est tout simplement des ingrédients qui sont de fait, à certains moments donnés, de la vie des femmes. Mais nous, aujourd'hui, on parle de la ménopause, mais il y a aussi les liens qui sont faits directement avec les cycles, les hormones. On va rajouter certaines choses, et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire aller regarder et puiser dans ces référentiels-là, l'Ayurveda, la médecine chinoise, et rajouter des choses plutôt que d'en enlever, comme on parlait du rapport à la privation, de pas être dans ce côté, vraiment, vraiment de sortir du prisme, de pas prendre du poids, mais plutôt de rajouter à la fois du goût, à la fois du plaisir et à la fois des petites choses qui vont venir assaisonner. On est très fan d'assaisonnement, donc forcément, peut-être, bah, on met un peu de côté le pot de sel et la baleine et on va rajouter des algues, parce que dans les algues, il y a le sel, le goût, il y a l'umami, il y a l'iode, mais il y a aussi du magnésium, du calcium, il y a un taux de protéines énorme. Donc en fait, c'est plutôt comme ça, nous, qu'on a eu envie de jouer, c'est d'aller puiser aussi bah, voilà, du calcium. On entend toujours parler du calcium dans les produits laitiers, mais il y a tellement d'ingrédients qui en sont extrêmement riches. Et donc l'idée, c'était de mettre en exergue des ingrédients comme ça et de jouer après avec. Mmh. Et toujours que ce soit bon. Ça, c'était très important, quoi. Mmh. Voilà. Le plaisir, c'est déjà une période qui est assez difficile à vivre, où il y a plein de questionnements physiologiques, mentaux et autres. Donc si en plus, on se rajoute une espèce de rapport à la culpabilité, c'est terrible, en fait. Mmh. Là, voilà, c'est la double peine, quoi. Donc voilà.
Oui, et puis c'est d'autant plus concret que grâce aux témoignages en fait, des différentes chefs, elles ont un lien à l'alimentation assez varié, mais elles vont, et des âges aussi très variés. Mais ce qui était très touchant, c'était de comprendre en fait, comment elles sont venues à penser cette période-là de leur vie à venir, ou déjà passée, ou en train d'advenir, de voir comment... quelle place elles ont aussi dans leur famille, dans leurs liens, dans leur communauté. Parce que bah, on sait très bien que nous, typiquement, ici en France ou un petit peu autour, on est très coupés en fait, des gens plus âgés. Enfin, les liens ont tendance à manquer. Et donc, bah, on ne sait pas, on ne voit pas. Et la plupart du temps, on ne pose pas la question. Et s'il y a bien une chose, moi, que votre livre m'a permis aussi de faire, c'est de demander aux femmes autour de moi, de ma famille, dire « mais au fait... » tu es ménopausée, mais de manière tout à fait respectueuse et pas intrusive, parce qu'on sait que c'est encore des choses qu'il est difficile de dire, mais rien que de partager les expériences autour de nous, c'est hyper puissant, ça.
Toi, tu dis souvent de décrisper la parole sur le
décrisper
sujet.
Décrisper la parole, la prendre, la décrisper, puis la prendre, la rendre audible, se permettre d'en parler, faire le lien. Moi, je me demande si j'ai pas eu envie d'écrire ce livre aussi pour enfin pouvoir parler normalement avec ma mère. Enfin, ça, lui... sans ce livre, je crois que j'aurais pas osé lui poser la question. Je communique pas forcément beaucoup avec elle sur les sujets de l'intime. Elle est pas hyper à l'aise avec cette parole-là. Elle m'avait rien transmis comme information sur la ménopause. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ici qui a vraiment eu des vraies conversations ouvertes avec sa mère ou sa grand-mère sur la ménopause. Je pense qu'en Occident, on n'est pas du tout habitué à parler de ça. En fait, on est très gêné, très embarrassé par les choses du corps. Plus du vieillissement. Alors, corps plus vieillissement, là, c'est foutu, quoi. Corps, les règles, éventuellement, ça commence, ça passe. Mais alors, la ménopause, c'est la double peine, encore une double peine. Mmh. Et inconsciemment, je me dis, j'ai pu en parler librement. Alors, il n'y avait pas grand-chose à me transmettre. C'était un peu comme beaucoup personnes encore aujourd'hui, d'autres générations. Oui, bon, ça va. Mais comme ma propre gynéco, quand je dis à ma gynéco, sans lui dire que je prépare un livre, bon, bah, j'imagine quand même que quand ça va se confirmer un peu tout ça, je vais devoir sans doute changer un peu des choses à mon alimentation. Je sais pas, vous auriez quelques conseils. Elle m'a regardée complètement interdite en me disant, ça va, c'est pas... là, il n'y a que le son, donc personne ne voit ma grimace. un peu, bon, bah, si ça vous amuse d'en manger des yaourts de soja. Non, mais ça m'a... rien n'est amusant spécialement là-dedans, mais donnez-moi des informations. Et j'avoue, depuis que ce livre est sorti, ma mère a fait un effort de réflexion. Enfin, elle a puisé dans sa mémoire pour me donner des informations qui me sont très utiles. Et oui, faire des livres, et chacune dans son domaine, mais ça peut être une sportive de haut niveau qui raconterait comment est-ce que sport et ménopause sont compatibles. Ça peut être dans plein de domaines, mais même, je sais pas, je suis chef d'entreprise, comment s'est passée ma ménopause dans une vie de bureau avec plein de mecs qui comprennent rien à ce qui m'arrive, j'ai une bouffée de chaleur géante en pleine réunion. Livrer ce témoignage-là, mais plus on sera nombreuses à le livrer, plus ça sera normalisé et ok. Et les gars qui viennent ici en te disant n'importe quoi ce sujet, c'est quand même moins ésotérique, ils se rendront compte d'eux-mêmes que cette parole est caduque, quoi.
Non, mais c'est que moi, franchement, cette anecdote-là que j'ai partagée, je n'en revenais pas. Je me suis dit, on traite quand même de sujets très vastes et variés à la franchise, mais c'est celui-là qui a fait un petit peu hérisser les poils, quoi. Fou. Enfin bon, on va leur dire, écoutez-le. Jennifer, pour toi, donc tu es naturopathe. Alors, moi, j'ai toujours dit que tu étais pâtissière naturopathe, parce que c'est comme ça que je t'ai rencontrée et que j'ai découvert ta cuisine qui... m'a depuis longtemps émerveillée, je te le dis, c'est une déclaration d'amour. Tous les petits cookies avec toutes les fleurs, etc. Donc il y avait déjà une démarche de mettre la nature au cœur, même si ce principe de nature, le vivant au cœur de la cuisine. Mais pour autant, je n'avais pas remarqué que tu traitais des sujets de la ménopause. Et donc est-ce que pour toi, c'était une continuité évidente et ça n'avait pas besoin d'être nommé? Ou est-ce que vraiment pour ce travail-là que tu as commencé avec Elvira et ensuite avec le livre, tu as repensé la façon dont tu avais fait ces liens-là vraiment pour ce sujet-là précis?
En fait, moi, je me rends compte que vraiment, j'ai depuis le début et encore plus maintenant et de plus en plus une vraie passion pour faire dialoguer les deux mondes. J'en parlais aussi à Elvira, c'est-à-dire vraiment le domaine, enfin moi j'ai commencé d'abord par la pâtisserie et après il me semblait qu'il y avait quand même un côté très coupé du corps et de la santé que je trouvais dommage, et un peu égoïstement j'avais fait la naturopathie et il y a eu des liens qui se sont faits quoi, entre voilà la relation de cause à effet entre les inflammations, les problèmes qui peuvent découler du fait de consommer trop de sucre ou des mauvaises qualités de sucre. Et c'est vrai, je me suis dit voilà, et après, à l'inverse, dans la naturopathie, là où j'ai fait ma formation, il y avait quelque chose de l'ordre de couper du plaisir. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment deux univers qui ne devraient pas être si éloignés que ça. Donc, comme ma formation initiale était vraiment la pâtisserie, c'était intéressant de commencer par là. Et je pense qu'il y a toujours cette notion de beau et de bon. Et donc, le sujet après, qui peut concerner la ménopause, c'est plus Elvira qui l'a amené avec l'article. Ce qui a été génial, parce qu'en fait, dès qu'on nomme un sujet, ça peut être... C'est la ménopause, mais ça peut être aussi des problèmes de cycle. La ménopause, c'est quand même la continuité du tabou des règles. Et on a aussi beaucoup de choses à dire et à faire aussi. Et de liens à faire entre l'alimentation, les hormones et tout ça. Donc en fait, c'était juste que chaque fois qu'on me questionne sur ces sujets, c'est une super opportunité pour moi de faire de nouveau dialoguer ces deux mondes. Et donc, comme on aime toutes les deux bien manger, quand Elvira a proposé le sujet à l'époque, qui n'était pas la ménopause, mais du bien vieillir avec la ménopause, il y avait quand même ce côté, comme elle disait, on n'était pas dans la lutte, on n'était pas dans le jargon de la guerre, on était de nouveau comment mieux vieillir, comment se faire plaisir. Ouais. Et comme, pour moi, c'est quand même très lié le bien-être et le plaisir, je trouve que, voilà, mais par contre, c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à tenir, parce que, ce qui est parfois très bon au goût n'est pas forcément toujours bon pour le corps, mais en fait, on se rend compte, et qu'est-ce qui était intéressant, c'est toujours une question de dosage. Mmh. On dit toujours, voilà, c'est, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte, et c'est vrai, en fait. C'est absolument déculpabilisant de se dire, bah, finalement, rien n'est interdit. C'est juste la répétition au quotidien, les habitudes, on parle toujours d'habitudes alimentaires. En fait, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. C'est parfois plus le rapport émotionnel aux aliments. C'est parfois pourquoi on pense qu'on peut pas se passer de telles petites choses dans la journée. Et quel impact ça a dans notre vie quand on le met tous les jours, trois fois par jour, sur une période de 10 ans, par exemple. Je sais pas. Les gens qui disent « j'ai toujours besoin de terminer sur une petite touche sucrée », mais si c'est à chaque repas, trois fois par jour, sur des années, forcément, ça a un impact. Ce qui est intéressant, c'est juste de questionner ça de temps en temps. Mais c'est sûr que moi, typiquement, quand j'avais fait ma formation de naturopathe, on peut aussi très vite rentrer dans un rapport d'autorexie. Quand on commence à analyser aussi tout, on peut être très vite coupé du plaisir. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre fragile entre les deux.
Mmh. Oui, et ce qui va être chouette, parce que je l'ai dit en présentation, c'est un livre de recettes. Le petit détail, parce que c'est les détails qui comptent dans les livres de recettes, tout le monde le sait, c'est que, par exemple, évidemment, je trouve, voilà. Là, par exemple, si on regarde les... C'est en anglais avec mon accent super. Oat cookies, donc les cookies d'avoine, c'est marqué satiété, stress, sommeil. Mm. Donc en fait,
des petites clés, ouais.
On peut tout de suite visualiser en fait ce qu'on va manger. Ça, c'est visualiser.
Indispensable. C'est qu'il y a à la fois des mots clés sous chaque intitulé de recette pour qu'on sache quel est le bienfait. Alors c'est un peu succinct, quoi. C'est des mots clés. Mm. Et après, il y a un petit chapeau. Un chapeau en presse, c'est quelques lignes d'introduction qui cite les bienfaits plus en détail et explique d'où vient cette recette, un petit peu comment elle est née, et à quel endroit précisément, effectivement, comme tu dis, Jennifer, ça va faire du bien. Est-ce que c'est plutôt la santé osseuse? Est-ce que c'est plutôt la digestion? Est-ce que c'est, voilà, toutes les... Est-ce que c'est reminéralisant? Est-ce que ça accroît la vitalité? Et ça, c'était le plus pénible à écrire.
Ouais, c'était le plus pénible à écrire, mais c'est ce qui est plus important, je pense. Cette dimension un
c'est
peu
tellement
de
important.
Pédagogie, quoi.
Ouais. On ne peut pas juste balancer des recettes comme ça et considérer que la lectrice ou le lecteur va s'en acquitter. Il faut effectivement une dimension un peu didactique, sans être non plus dans l'ouvrage érudit de nutrition, santé, qui peut plomber aussi un peu la lecture. Enfin, il faut que ce soit suffisamment d'infos pour qu'on ait du biscuit, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ait vraiment, on retienne l'info. Et sans être écrasé par un savoir que, de toute façon, je n'ai pas. Donc, ça ne risque pas d'arriver. Et les recettes, on voulait qu'elles soient effectivement toutes assez faisables et rapides à réaliser dans l'ensemble.
Et ça, vraiment, Elvira a été le garde-fou de ça. Parce que moi, justement, en évoluant dans mon domaine de la naturopathie, parfois, je peux être un peu déconnectée. Je peux un peu être monomaniaque sur des ingrédients. Parce que à quel point je vois, nutritionnellement, ils sont super. Alors, par exemple, il y a l'ortie. Donc moi j'ai tout dit, ouais, je veux qu'on mette de l'ortie partout. Elle me dit, attends, oui, super, à la campagne t'en as partout, mais en ville t'en as pas. Faut quand même penser à la dimension faisabilité, praticité.
Moi je voulais mettre du parmesan partout. Hein, me dit, écoute, je t'ai dit que c'était super, bien. C'était... Elle me dit, je t'ai dit que pour le calcium c'est top, mais quand même pas non plus. Ça fait 12 sauces que tu fais au parmesan, calme-toi un peu, quoi. Mais c'est quand même très très gras, quoi.
Non, c'est vrai que c'est le côté pratique, le côté accessible, le côté là il y a trop de gestes, là c'est super. Super, mais c'est inaccessible. Voilà, moi c'était vraiment.
Et puis on a eu quelques loupés aussi, qui sont pas dans le bouquin forcément. Des choses qui sur le papier étaient vraiment vertueuses. Oui. On aurait adoré que ce soit bon, mais ça n'était pas dans quoi ça.
Non, ça marchait pas tout le temps. Voilà. Une mayonnaise au tofu, bon la mayonnaise elle est en place. Vraiment le petit film gradu du blanc d'œuf et de l'huile, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça.
Oui, parce que alors attendez, parce que là ce qu'on entend, c'est que vous avez élaboré les recettes ensemble.
Oui.
Ouais, il y a eu un gros travail d'échange. Justement, l'intérêt de faire un livre à quatre mains, c'est aussi de faire converger deux univers. Là, il y avait aussi des petits biscuits de ton enfance, avec une quantité de sucre astronomique.
J'arrive avec les biscuits que j'ai faits à la maison, alors qu'on faisait les recettes au quotidien dans le labo de Jennifer. Mais parfois, on s'avançait, parce qu'on avait chacune des missions de notre côté. Et puis le matin, on se retrouvait. Moi, j'avançais de la prépa. Et là, je me dis, je vais quand même faire ces biscuits. Ben, c'est les biscuits à l'avoine, qui sont vraiment des biscuits suédois typiques. Ma mère est suédoise. Et en Suède, on consomme quand même beaucoup, beaucoup de sucre. Traditionnellement, dans les recettes, c'est vraiment sursucré. J'arrive avec mes biscuits. Enfin, je fais vraiment la recette. Je savais que ça allait être un peu trop sucré, mais je me disais quand même, les flocons d'avoine, c'est vachement bien pour la satiété et tout. Et puis elle goûte, elle me dit, je pense que tu peux enlever les trois quarts du sucre.
C'était presque un caramel avec quelques flocons d'avoine.
Ça n'avait rien à faire dans le bouquin, quoi. Là, c'était complètement
à côté de la plaque. Ou alors, regarde, on le laisse comme ça, mais on le met vraiment ponctuellement, de temps en temps.
Oui, parce que le jeu aussi, c'est qu'on va retrouver des recettes, en tout cas des noms. Là, je lis typiquement granola, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues. Mais tout le twist, ça va être ce qu'on va y mettre. Parce qu'on sait très bien que typiquement le granola, il y a des warnings quand même assez forts sur, en effet, cette fameuse dose de sucre. Mais de toute façon, le sucre raffiné, il y a des warnings souvent qui apparaissent sur beaucoup d'endroits.
Et à juste titre, hein, c'est pas... Ouais. Ouais.
Mais ce qui est très chouette, parce qu'on peut aimer le sucre, avoir envie de sucre, mais on n'est pas obligé de manger du sucre raffiné pour avoir du sucre. Et vous avez toute une page, puisque je n'ai pas encore parlé de ces petits, ces doubles pages-là, qui vont approfondir en fait des thématiques. Et notamment, le sucre va en faire partie, avec un tableau qui récapitule en fait toutes les façons d'utiliser des produits au pouvoir sucrant ou qui trichent. On penserait que c'est du sucre, mais ça n'est pas.
Oui, déjà de regarder les qualités de sucre, il y a une vraie variété des sucres qui n'ont pas juste un côté, ça remplace le sucre blanc, il y a du goût, il y a le sirop d'érable, ça amène une typicité, ça devient presque à la fois de l'assaisonnement, mais même plus. Après, il y a aussi les légumes qui peuvent sucrer. Enfin, on a fait une recette avec un blondi où la base est la citrouille, donc à la fois il y a le côté crémeux et souvent... On pense qu'on a envie de sucre, mais en fait, on a besoin d'un réconfort, on a besoin d'une caresse, on a besoin de quelque chose qui...
On a besoin de rondeur, plus que de sucre, en fait. T'as raison.
Et c'est pour ça que moi, je suis très fan du référentiel de médecine chinoise, parce qu'ils expliquent très bien aussi les différents appels du sucre. Ça va être plutôt, par exemple, une crème chaude ou un lait d'amande. Parfois, on a peut-être plus besoin de ça que de sucre. Donc...
On peut avoir besoin de cannelle et de fleurs d'oranger.
Voilà, c'est ça. T'as raison, la cannelle, j'avais oublié.
Et Jennifer a quand même... Enfin, pardon, je te trace un peu des couronnes de laurier, mais c'est quand même une pâtissière assez géniale. Ouais. Et elle est capable, effectivement, tu la vois faire, c'est qu'elle est en train de cuire, mais une citrouille géante. Et elle va faire plein de recettes de gâteaux, de douceurs, avec un apport de sucre ajouté minime, où elle va mettre une date hachée ou un petit peu de sirop d'érable. Et tu te dis, mais ça va pas être assez sucré. Moi, je suis un peu bec sucré quand même. Je me dis, mais ça va pas être assez sucré, etc. Et tu goûtes ça et c'est d'une gourmandise grâce à la purée de patates douces ou à la purée de citrouille qui sont naturellement sucrées et dont le pouvoir sucrant est décuplé par la cuisson, en réalité. Et un équilibre parfait entre eux, mais tu vas mettre du tahine, une date et tout, et c'est un équilibre parfait, quoi. Mais ça, c'est aussi une grande expertise du métier de la pâtisserie, quoi. Ça fait beaucoup de test and learn avant d'arriver à ça.
C'est vrai que c'était intéressant aussi, tout n'est pas acheté dans la cuisine, la technicité de la cuisine ou de la pâtisserie, c'est qu'il y a quand même aussi un équilibre gras, sucre, texture, et qu'en fait, on fait des allers-retours entre tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez chouette, vraiment, la technique apporte aussi. Donc l'idée, c'était d'utiliser aussi la technique pour dire, bah tiens, là, ça manque de texture, ça manque de goût, ou peut-être le côté sucré, on peut l'atténuer et rajouter justement... Et on a aussi beaucoup diabolisé les matières grasses et le gras, aussi dans l'alimentation en général, surtout l'alimentation santé, alors qu'en fait, c'est typiquement... Il y a aussi le succès de Glucose Goddess, qui est un très bon livre pour ça, qui explique qu'en fait c'est pas tant ce qu'on ajoute, hein, c'est plutôt là où on le met, qu'est-ce qu'on met avant, et l'assimilation du corps. Donc ça, c'est super intéressant aussi de jouer comme ça, quoi.
Oui, le principe d'habiller ses glucides, je crois que c'est ça.
Oui, c'est-à-dire ce qu'on aime mettre à cet endroit-là, peut-être qu'avant, si on mange telle chose, des fibres, ça, il va y avoir moins un pic glycémique et tout, mais c'est ça la clé aussi, quoi.
Tu dis beaucoup ça, toi. Tu dis que l'idéal, c'est quand même de commencer aussi un repas par une portion de cru, par des fibres. Tu l'as toujours dit, hein.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment chouette de finalement dédiaboliser absolument tout et de se dire non, chaque chose a sa place.
Mais d'ailleurs, dans le livre, tu parlais des pages thématiques. Donc, la double page sur le sucre, il y a une double page sur un peu la vérité. Enfin, on ne détient pas la vérité, mais en tout cas, un point de vue sur le calcium. Les acides gras, l'idée c'était vraiment d'apporter un panel d'informations simples, accessibles, mais on ne dit pas non plus typiquement les produits laitiers, Certes, c'est pas là qu'on va trouver la meilleure source de calcium, mais si on aime le fromage, si on a très envie de se faire plaisir, on va pas interdire ça. Il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit. Ces pages thématiques sont pas des listes de ce qu'il faut pas manger. Oui, c'est plutôt faire des points,
c'est
remettre.
Dresser entre guillemets les pour les contre. Après, chacun fait ses choix. Et typiquement, voilà, ne rien enlever, ça concerne ça aussi, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses. Ouais. En effet, vous parliez du calcium, le soja, le gluten. Enfin, c'est beaucoup de mots qui pop souvent quand on commence à questionner l'inflammation ou le dérèglement hormonal. Mais c'est vrai que, encore une fois, on a peut-être parfois tendance à dire « Ok, tout est fini, je ne prendrai plus jamais de lactose de ma vie. » Sauf qu'en fait, quand on farfouille un petit peu, on trouve aussi des aliments qui sont ok. Évidemment, on ne va pas manger ça matin, midi et soir. On va rester... Tout est dans l'équilibre, en fait, et la diversité,
tout est dans l'équilibre,
toujours ça.
Et c'est pas inintéressant à des périodes de la vie. Et cette période, justement, de préparation de la ménopause, ou même dans la période de la ménopause, ça peut être intéressant. Moi, je dis toujours de faire... l'essai, si c'est choisi, si c'est joyeux, de réduire, de décentrer ou d'enlever sur une petite période. Il ne faut pas que ce soit vécu dans la frustration, mais ça peut questionner la place qu'a cet ingrédient. Et on parlait du sucre au même titre que les produits laitiers. Parfois, c'est aussi comme ça qu'on se reconnecte à son corps en enlevant l'ingrédient un temps, juste pour voir s'il y a des corrélations entre ce qu'on ressent, le bien-être et la place qu'il a. Tiens, j'ai enlevé ça. Alors là, on est au mois de janvier. L'alcool, beaucoup font l'exercice de l'enlever au mois de janvier. Et c'est intéressant, ça nous dit des choses de nous. Mais c'est toujours plus chouette de le vivre comme ça que de le vivre dans la culpabilité.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de se considérer en tant que femme comme... sujet d'expérience possible. Ouais. Alors, encore faut-il avoir le temps, la bande passante, aller bien, etc. Mais se dire... toi, tu dis beaucoup que l'idéal serait de commencer la journée sans sucre. C'est-à-dire de sortir un peu de son tropisme ou de son braquet, j'allais dire encore occidental ou franco-français, de la tartine de pain beurré et de la confiture. Est-ce qu'on pourrait peut-être... Ou j'ai rien à manger à la maison, je vais me faire des coquillettes avec du jambon et du... et du fromage, ça peut beaucoup être ça. Moi, je le vois aussi pas mal autour de moi. Tu pourrais te dire, bah tiens, le soir, ça pourrait être du riz avec une légumineuse déjà et un peu d'algues. C'est pas hyper compliqué non plus. Encore faut-il, encore une fois, avoir la bande passante pour avoir le temps de réfléchir à ça. J'entends bien. Tu dis, idéalement, ne pas commencer la journée sur une note sucrée, c'est déjà un vachement bon moyen de se déshabituer. Tu perds vite l'habitude, en fait. Bon, on n'est pas obligé de commencer par un porridge salé aux algues tout de suite avec des sardines en boîte et du foie de morue. Ok, on va y aller en douceur. Mais déjà un porridge avec peut-être ou un tout petit peu de miel ou une compote de fruits non sucrés, une compote de, je sais pas, une pomme cuite avec de la cannelle sur un porridge, c'est peut-être pas mal. C'est quand je disais tout à l'heure ouvrir ses chakras, ça passe par des petits trucs comme ça. C'est pas non plus cuisiner pendant 4 heures une recette de l'autre bout du monde, mais c'est une porte d'entrée et qui permet après de se dire, bah tiens, j'ai déjà fait un premier step, pourquoi pas le suivant, etc. Sans se faire violence, en douceur, être un sujet d'expérience pour soi-même.
Mais oui, mais d'autant qu'on a pris l'habitude en fait d'avoir des schémas alimentaires. Alors là, typiquement, ça dépasse le cas de cette période-là de la vie qui est la ménopause et de ces âges-là. Mais je veux dire, en fait, on nous dit petit déjeuner, dîner, souper, ça c'est à la belge, je sais plus comment vous... Enfin bon, bref. Alors qu'en fait, et c'est Perla Servan-Schreiber qui, je pense, le dit, en fait, elle s'est questionnée sur quand elle avait faim. Et parfois, le midi, elle déjeune pas. Et donc, et je me suis dit... Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup questionnée aussi, parce que parfois, on s'oblige à manger parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour, voire un petit goûter, nanana. Et parfois, on n'a pas faim, en fait, tout simplement. Donc, c'est des choses qui sont tellement ancrées dans des réflexes que manger sucré au petit déjeuner, moi, typiquement, je ne le fais plus depuis de nombreuses années. Et en fait, ça a révolutionné mon pic de glycémie de 11h où j'avais l'impression que j'allais manger ce comptoir, quoi, tellement je mourais de faim. Alors que maintenant, après, je suis partie de cette vague qui mange deux œufs le matin. Oui, voilà, je...
Mais c'est
moi
très
aussi,
bien.
Je suis sur la,
l'œuf, la l'œuf, mode. L'œuf, voilà. C'est un aliment magique, c'est un produit parfait, c'est un produit hyper vertueux.
Accessible, pas cher.
Oui. Qui a été hyper décrié pour des mauvaises raisons, mais il est enfin fait, réhabilité.
Mais ouais. c'est ça. En fait, il y a deux choses dans l'œuf qu'on doit regarder, c'est la qualité de l'œuf, parce qu'on dit que l'œuf, ça peut être le pire comme le meilleur des ingrédients, ce qui est vrai. Donc la qualité de l'œuf et la cuisson. Et en fait, de ça va dépendre effectivement la digestibilité et l'apport. Enfin, c'est se donner les meilleures chances, quoi. C'est vraiment intéressant.
Puis le principe de satiété, parce que
c'est important
là,
aussi, ça en questionne pas assez le principe de satiété.
Ben non, de se dire que en fait, on va tenir et que parce que bon, moi je suis assez active, on peut le dire, c'est des grosses journées, on est fort debout, etc. Et de se dire que j'ai pas à réfléchir, en fait, à devoir me nourrir pendant 4 heures, ben moi, c'est cool. Merci. Et après, je mange très bien au lunch et c'est très bien aussi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, cette obligation un peu socioculturelle de prendre 3 repas par jour. Si on n'a pas forcément envie de prendre 3 repas par jour, c'est aussi en tant que femme le truc qu'on a intégré. Si tu officialises le fait que tu sautes un repas ou que tu n'as pas faim, t'as quoi ? T'es au régime Il faut se justifier quand on n'a pas envie de manger, par exemple. Si tu manges un peu trop, une espèce d'auto-surveillance permanente, et donc un truc qu'on a intégré qui devient un peu une auto-censure, quoi.
J'ai toujours entendu dire qu'il ne faut jamais sauter un repas. Oui. En fait, qui dit ça ? Alors, il y a des gens à qui ça ne convient pas du tout, et ils doivent écouter ça. C'est comme, il y a beaucoup de modes, il y a le régime, la diète de jeûne intermittent, ça convient très bien à certaines personnes, beaucoup moins à d'autres. Il y a toujours, dans n'importe quelle tendance, régime, courant, des indications, des contre-indications. Donc ce qui est important c'est de se connaître. Plus on se connaît et plus on sait si ça va nous aller ou pas. Il y a des gens qui ont un métabolisme rapide, le jeûne intermittent c'est une grosse erreur pour eux. Et il y a des gens qui ont un démarrage plus lent, le foie fragile qui se met pas en route, et le jeûne intermittent est un cadeau. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, et c'est très important de s'écouter. On peut avoir vraiment, je sais pas, 10 personnes dans une pièce qui vont avoir une tendance, si nous c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut être vraiment très en accord avec ce que notre corps nous dit. C'est vraiment, c'est lui qui sait, finalement.
Vous parliez tout à l'heure de comment vous adoriez les assaisonnements. Et c'est vrai que, en fait, c'est parfois des choses sur lesquelles on passe parce qu'on veut aller vite ou on sait pas. Mais pendant longtemps, je disais, non mais je suis très mauvaise dans les assaisonnements. En fait, il a juste fallu que je comprenne ce que j'aimais dans les assaisonnements. Et donc, il y a aussi ça, c'est que vous allez parler donc des huiles, des bienfaits des différentes huiles, etc. Mais aussi des herbes, alors magiques, ou alors, je sais plus, vous avez les plantes aux 1000 vertus, les herbes familières, tout ça, en fait, c'est vos noms de catégories que vous nous expliquez. Ça aussi, c'est beaucoup de fun, en fait, dans la cuisine, que de se dire... alors moi, j'avais, grâce à une autrice, Sophia Karampali-Farhat, qui est libanaise, qui m'avait offert du za'atar de sa grand-mère de là-bas. Enfin, j'ai testé plein de choses, essayé de voir avec des œufs, avec... elle m'avait conseillé de le mettre dans des pâtes et des choses comme ça. Et c'est délicieux. Mais ça a changé, ça a twisté en rien, en fait, la cuisine. Et c'est plein de super bonnes vertus, tous ces aromates. Est-ce qu'on te parle d'aromates, de mélanges,
condiments Bah moi, c'est un peu ma passion dans la vie, ça, les condiments. Je suis pas une très bonne cuisinière, je suis pas une technicienne, mais je sais sauver un truc, je sais pas comment dire, je sais bricoler. Ouais. C'est-à-dire avec une base plutôt saine, ça peut être un mélange, je dis n'importe quoi, riz, orge, légumineuse. On peut se dire, oui, j'ai pas envie de manger une plâtrée de riz, orge, légumineuse, alors que c'est vachement bien pour moi. Mais on tenait à ce qui est dans le livre, effectivement, cette manière de condimenter, de twister, de donner du caractère, du relief, du peps à des choses assez basiques. Alors ça peut être, alors je donne l'exemple du tofu, mais on n'a pas forcément envie d'avoir du tofu tous les jours, mais un peu de tofu, un peu de tamari, de l'huile d'olive, tofu soyeux, c'est la version la plus molle, un peu texture de panna cotta. Tamari, c'est la sauce soja sans gluten, mais ça peut être une sauce soja classique, sauf qu'elle serait un peu plus salée avec du gluten. Tamari, un petit peu de tofu soyeux, un peu d'huile d'olive, un peu de parmesan, tu me l'accordes quand même. Bon, ça va saler encore un peu davantage, mais et là on a une espèce de texture un peu de sauce César. Il suffit de mettre une gousse d'ail, un petit coup de mixeur, et là t'as une sauce géniale pour des carottes râpées, pour une salade, pour un mélange de grains et de légumineuses. Et c'est un exemple parmi 50 autres d'une espèce de petite boîte à outils dont on livre quelques exemples dans la double page qu'on appelle quoi ? Sauce magique,
je peux comprendre. Les assaisonnements, parce
Que
c'est vrai que ça peut sauver.
Ça change la vie, puis tu les gardes au frais quelques jours. Donc ça évite aussi cette charge de rentrer chez soi et de se dire, oh là là, mais comment je vais faire ? les sauces, les herbes, mais si on peut avoir ça toujours sous la main, la cuisine est tellement plus simple, et puis elle est pleine de vertus. Mmh. Les algues aussi, qu'on peut mettre dans les sauces aussi. Hein.
Mmh. C'est une forme de batch cooking en différé, c'est ça, parce que parfois on parle beaucoup de... Il y a des choses qu'on peut faire rapidement, comme cuire un riz, cuire des légumes, mais c'est la petite pincée du condiment, du za'atar, du furikake, peu importe comment on le nomme, mais qui va être à la fois effectivement l'ajout gustatif, qui va faire la différence sur le goût, le plaisir qu'on va avoir, mais c'est aussi une merveilleuse façon de se complémenter par l'assiette au quotidien. Le furikake, initialement, il a quand même été inventé au Japon pour pallier à des carences en micronutrition, c'est-à-dire vraiment justement l'iode par les algues, le calcium par le sésame. Après, ça a été récupéré, il y a eu beaucoup d'ajouts d'additifs, de sucre, de sel, qui n'étaient pas forcément très intéressants. Mais en fait, on se rend compte, et c'est là où on devient un peu fou, quoi. Enfin, c'est que c'est merveilleux de se rendre compte qu'il y a des condiments qui sont initialement des ajouts de santé. Par exemple, je sais que nous, en naturopathie, on nous apprend que pour favoriser la lactation des femmes quand elles ont un enfant, on va prescrire, ou en tout cas, on n'a pas le droit de dire prescrire, mais on va conseiller du fenugrec, qui va favoriser la lactation. Donc, il y a quand même des gens qui vont en pharmacie pour acheter du fenugrec sous gélule quand même, alors que dans la culture libanaise nord-marocaine, qui s'appelle le hilbé, qui est donc le fenugrec, les graines sont broyées, mélangées avec de l'eau, pareil avec du sel, ça donne une espèce de gel avec un mélange d'épices, c'est hyper bon, c'est un dip. C'est peut-être plus sympa de le prendre comme ça finalement que sous forme de gélule, et c'est valable pour tellement de choses. Moi, je parlais de l'ortie tout à l'heure, on n'en a pas mis partout dans le livre, mais c'est une des plantes les plus merveilleuses qui soit. Protéines, vitamine C, silice, tout ce qui peut être un peu justement sur la partie osteo-articulaire, c'est quand même accessible. Ça peut être intéressant si un jour on en croise, d'en cueillir en faisant attention, de les faire sécher, de les mélanger avec du sel, du sésame et de se faire son propre condiment. Mmh. C'est quand même un cadeau.
Ou faire le fameux dip tout vert, qui est une recette qu'on adore, qui est une bonne entrée en matière aussi pour le tofu, avec la forme la plus vertueuse de tofu, qui est le tofu lacto-fermenté, si on a la chance de pouvoir tomber dessus dans les épiceries bio. Que tu mixes avec... alors là, c'est l'occasion d'y mettre des huiles. Ça peut être un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, un peu d'huile de chanvre, de cameline, avec une poignée d'ortie, mais ça peut être aussi une poignée de cresson. Enfin, on mélange, on fait avec ce qu'on a aussi. Mm-hmm. Et là, tu as un dip tout vert avec des crackers, c'est super bon. Mais c'est bon aussi avec un riz, avec des légumineuses. C'est bon comme sauce, comme départ de sauce ou en soi. Et c'est pas... Enfin, la plupart des recettes du bouquin sont pas très compliquées.
C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que les herbes aromatiques aussi, on n'en parle pas assez, mais il y a un tel tropisme santé sur le romarin, qui soutient le foie, l'estragon, qui sont à la fois... Et on voit qu'il y a des cultures comme ça, la cuisine libanaise, ou par exemple même le taboulé, c'est gorgé vraiment de minéraux, de micronutriments, et en même temps, c'est tellement bon. Mm-hmm. Donc, et c'est digeste, et c'est toujours intéressant de se poser la question comment on se sent après avoir... manger un taboulé qui a été constitué comme ça, mais c'est très chouette, quoi. Mmh. C'est gourmand.
Oui, je me souviens, j'ai regardé un documentaire sur les zones bleues, donc ces endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires. Oui. Je sais plus qui, quoi, qu'est-ce, mais en gros, c'est une personne qui va essayer de comprendre les points communs entre toutes ces communautés. Et le principe des herbes sauvages, et donc dans beaucoup de communautés, notamment méditerranéennes, le principe d'aller dehors, dans son jardin, dans la forêt, dans le vivant, quoi, et d'aller se servir directement, de mettre ça dans les plats. Donc ces énormes bouquets d'herbes fraîches, mais il peut y avoir les persils sauvages, le fenouil sauvage, etc. Et les personnes donc, qui, en plus, sur le documentaire, sont toutes très très vieilles, et donc à la télé on en voit quand même rarement sur l'image des vieilles personnes, étaient là en train de prendre beaucoup de plaisir à manger de l'herbe, et je me disais, mais en fait c'est tout simple, il y a des choses qui sont quand même assez simples quand on parle longévité et bien vieillir. C'est pas, tu sais, tu parlais du principe du médicament, de la gélule, ça c'est quelque chose de très occidental.
Mais c'est qu'on est dans un rapport à la médicalisation,
c'est ça.
Ou même moi je sais que voilà, la phytothérapie, j'ai aussi un cursus complémentaire en phytothérapie, c'est, il y a ce côté vraiment où on utilise une molécule de la plante pour venir intervenir sur tel tropisme. Mais c'est plus sympa d'avoir la plante fraîche avec son goût, avec il y a quand même un aspect sensoriel de la cuisine. dont on a besoin pour nourrir tous les sens. Donc, plus sympa de le mettre dans la cuisine. Et ce qui est magique, c'est de se rendre compte, effectivement, qu'il y a des référentiels de cuisine où c'est tellement bien pensé. Et c'est pas justifié scientifiquement ou c'est pas expliqué, mais en fait, ça a tellement de sens. Voilà, c'est du savoir empirique. Voilà, on va pas prétendre que ça guérit, mais par contre, je pense que les gens, effectivement, à une certaine époque, étaient plus connectés aux sensations que ça procurait.
Mmh. Et donc, tout ce qu'on a pu entendre là, c'est qu'évidemment, ça passe par l'alimentation, tout ça, mais ça passe aussi par le fait de bouger, d'être ensemble, de se parler, donc c'est ce qu'on a dit, hein, de pouvoir les unes les autres se confier ce qu'on a, parce qu'en général, on n'est pas les seuls, en fait, à avoir des symptômes, quels que soient les endroits de notre cycle. Et je me disais... qu'au final, même si c'est un livre de recettes, je le répète, mais parce qu'on pourrait s'attendre vraiment à avoir des romans à l'intérieur, mais pas du tout, c'est vraiment des recettes. C'est assez carré à ce niveau-là, comme tout livre de recettes. Mais on sent bien, en fait, qu'il y a beaucoup plus autour de ça et que vous nous avez aussi apporté une façon de vivre ensemble, en fait. De connivence, de sororité, de lien intergénérationnel. Et je pense que, on l'a dit et on l'a déjà répété, mais c'est peut-être... aussi important, en fait, que l'alimentation, c'est d'arrêter d'être dans des endroits très solitaires, en fait, avec ces questions qui nous gênent, parce que c'est notre intime, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, mais en fait, ensemble...
Mais je pense que ça nous tenait vraiment à cœur, mais peut-être aussi parce qu'on a été un peu cueillis par ce livre. On ne l'a pas dit, mais on a une forme de retenue au départ, quand le livre nous a été proposé. C'est-à-dire que certes, il y avait cet article qui préexistait, mais c'était un article pour un magazine qui était un peu caché derrière l'enseigne du magazine, donc on ne se mouillait pas. Là, soudain, il fallait embrasser ça en notre nom propre. Moi, j'ai commencé par, je le raconte dans la préface, par avoir une réaction un peu négative. Je suis là, wow, ménopause, ça va beaucoup trop vite, là. Je ressentais cette petite gêne un peu ancestrale qui se transmet peut-être de mère en fille, où on est nombreuses à pas avoir été à l'aise avec le sujet. Il a fallu que j'accepte ce malaise avant de me dire je vais le braver, ce malaise. Mais quand j'ai décidé de le braver, que toi aussi t'as décidé de le braver,
pareil,
toi t'éprouvais pas vraiment un malaise, surtout tu te sentais...
Moi ça m'intéressait la partie naturo.
Mais tu trouvais que c'était un peu tôt.
Je me suis dit tout de suite on va m'identifier, mais en fait voilà, toujours une histoire de perception de soi-même.
Ou de légitimité à être trop tôt.
Aussi, oui. J'avais aussi cette problématique et ça je continue à penser que finalement comme je l'avais pas vécu dans mon corps, je pouvais pas dire je, et c'était vrai que c'était plus le prisme des autres livres où j'avais vécu des choses dans l'expérientiel, dans ma cuisine ou dans la pâtisserie, que j'avais envie de retranscrire en disant je, ce qui était moins le cas là.
Ouais, alors moi mais j'avais une forme de petite gêne, mais cette petite gêne culturelle qu'on peut pas vraiment justifier, que j'ai décidé de braver, mais à partir du moment où on décidait de le braver ensemble, il fallait qu'on soit assez intégrative.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait un esprit un peu de communauté dans le livre. Il n'était pas question qu'il n'y ait que notre tête. On ne voulait pas notre tête là. On ne la voulait pas tellement non plus, mais bon, on y est quand même. Hein. mais il fallait qu'on puisse, on l'a dit très vite d'ailleurs, on s'est dit, ce serait vraiment super qu'il y ait d'autres femmes que nous. Ce serait vraiment super qu'il y ait des femmes d'autres cultures. Et plus... Alors, il n'y a pas 50 000 portraits, il y en a dizaine, mais ça fait une multiplicité de points de vue qui font que peut-être nos lectrices potentielles vont se retrouver, vont être plus nombreuses à se retrouver, elles vont se dire, il y a d'autres cultures, ah, ça va m'intéresser. Donc, il fallait que ce soit, même si c'est notre livre, il fallait qu'il y ait une dimension quand même, oui, un peu collective, un peu globale et un peu accueillante, peut-être, c'est ça, voilà.
Carrément accueillante. Ouais. Je suis d'accord, ça a marché, c'est très bien.
Merci
en tout cas beaucoup. J'ai déjà fait pas mal de recettes de ce livre, j'adore. Franchement, je sens que c'est un peu ma bible du moment.
Merci.
Donc merci à vous deux pour tout ce travail.
Merci pour ton accueil.
Merci Jennifer. Alors, heureuse, vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Jennifer Hart-Smith et d'Elvira Masson. À l'occasion de la publication de leur livre « Le manuel gourmand de la ménopause » aux éditions du Seuil. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. We'll be right back. la vie n'est pas là. Que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchi Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.